gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquet, do you feel good? Comment ça va?
Bonsoir, amis auditeurs, amis auditrices de la radio la plus rebelle ou la plus belle. C'est comme tous les dimanches, 22h, et c'est l'heure de la causerie. Ce soir, dans les studios, nous avons Fab.
Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir. À la technique, nous avons Clara.
Bonsoir.
Et nous avons ce soir comme invité, pardon, j'arrête de toucher mon micro, Nicolas Dalméda.
Bonsoir.
Bah vas-y.
Bah oui, j'y vais.
Tu l'avais pas prévenu qu'il y avait Nadia.
Ah oui,
il
c'est vrai,
j'étais super
pas...
surpris ouais. À la fin du générique.
Ah bah voilà. Attends, on a un générique à la hauteur, hein, s'il te plaît. Donc on reçoit Nicolas ce soir. On vous avait prévenu la semaine dernière pour causer des rues de Lyon. En tout cas, plus précisément du numéro du mois de mars, le numéro 111, qui porte sur la révolution, la contre-révolution. On parlera de tout ça évidemment.
Et surtout sur le massacre des Matvons.
C'est le titre.
Il est bon. Mais avant qu'on cause plus du numéro en lui-même, bah, tu peux peut-être faire une petite présentation de toi, Nicolas.
Bonjour, je m'appelle Nicolas. J'habite à Bourg-en-Bresse, mais j'ai habité à Lyon pendant longtemps. En fait, j'ai fait toutes mes études à Lyon. Après le bac, j'ai fait un an en art appliqué. En fait, c'était un an obligatoire quand on sortait de bac général pour intégrer les écoles, tout ce qui était BTS, art appliqué, etc. Enfin bon, bref. De toute façon, j'ai pas continué là-dedans parce que ça m'a pas plu. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la bande dessinée. Et la seule école qui fait ça vraiment à Lyon, c'est Émile Cole. Enfin, et les seules écoles qui font ça en France, c'est des écoles privées et j'avais pas les moyens de me les payer. Du coup, je suis parti en fac. Fac d'anglais à Lyon 3. Bah ouais, je savais pas la réputation de la fac à l'époque, mais bon, je suis parti à Lyon 3.
Mais tous les auditeurs et auditrices la connaissent pas forcément non plus, je me dis.
Et c'est vrai qu'ils la connaissent pas. Bah en fait, à Lyon, il y a trois universités. Il y a Lyon 1, et c'est vraiment c'est un monde à part parce que c'est les scientifiques. C'est particulier.
Et on ne critique pas les gens qui ont fait Lyon 1, s'il te plaît.
On ne critique pas, mais c'est vrai que.
Bah non, je viens de Lyon 1, donc.
Tout à fait.
S'il te plaît.
C'est vrai. Bah, il y a Lyon 1.
Voilà, il y a Lyon 1.
Qui existe.
Il y a Lyon 2.
Qui font des trucs très bien. Il y a Lyon 2, qui sont à la fois bah, plutôt à Bron, mais un petit peu sur les quais, mais plutôt à Bron, et qui ont vraiment cette réputation d'être la fac de gauche, et être militante. Et puis Lyon 3, qui a la réputation inverse.
Qui est pour, enfin, ouais, très militante, mais à droite.
Très militante, mais à droite, voire même à l'extrême droite, quoi. Ouais. Parce qu'il y a des liens avec les Gudard, il y a eu Forisson qui a eu une chaire là-bas. Donc, ouais, c'est vraiment. Il y a une réputation très. Très particulière.
Une sorte de repère, un peu.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Et après, bah, tu disais justement, quand on a préparé cette émission, parce qu'on les travaille un petit peu, on dirait pas, mais quand même, tu disais que toi, en fait, le dessin, c'est quand même un truc qui t'accompagne depuis quand même assez longtemps, si je me trompe pas.
Ouais. Depuis hyper longtemps, mais depuis le lycée, vraiment. En fait, quand j'étais au lycée, c'était l'époque où les blogs explosaient, où les gens commençaient à faire des dessins sur les Facebook balbutiants, etc. En fait, c'était les gens qui commençaient à quitter les Skyblog et MySpace, etc. pour faire des Facebook et puis des blogs, des vrais blogs. Et moi, je trouvais ça super. Enfin, ouais, c'est à ce moment-là où j'ai commencé vraiment à dessiner, puis rencontrer des gens sur Internet en faisant des dessins. Et c'était super, et c'était vraiment de la BD, c'était plus que de l'illustration. Enfin, ouais, parce que moi, le dessin, c'est vraiment le média bande dessinée qui m'intéressait. Mmh. Et ouais, j'ai continué tout ça, en fait, même après, en étant en fac d'anglais, je continuais de m'investir beaucoup dans pas mal de médias étudiants pour faire de la BD, et puis à maintenir mes Instagram un jour, et ouais, essayer de l'alimenter un petit peu. Voilà.
Je voulais quand même préciser aux jeunes auditeurs et auditrices, avant les réseaux sociaux, il y avait des blogs. Voilà, ouais. C'est tout.
Les blogs et les forums.
Et les forums. Ouais, ouais. Il y avait Skyblog. C'est vrai, c'est une génération qui. Oui.
Et des MySpace, des trucs. Ah ouais. Donc personne ne se souvient.
Bah, pas les plus jeunes en tout
et
cas.
Mais tant mieux, quoi.
Mais ça a eu un impact de fou sur le monde de la BD. Hein.
Mais oui, c'était quand même génial en fait.
Bah
quoi.
Ouais. Les Boulets, même les Wissandem et tout, c'est des générations qui viennent de là et qui ont fait vraiment bouger les choses de ce côté-là.
Et vu que ce soir, bah, c'est l'épicerie séquentielle, ou en tout cas les rues de Lyon qui nous
réunissent.
Réunissent. Oh là là. On t'avait prévenu que c'est moi qui oubliais les mots, les phrases.
Juste quand même que tu sois au courant. Donc avec Jean-Yves, on joue à pyramide régulièrement. C'est-à-dire que il faut trouver le mot en fonction des définitions.
Bah, et justement, bah, l'épicerie séquentielle, alors. Est-ce que tu as envie de taper un petit peu un speech sur l'épicerie séquentielle? Mais si, peut-être pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent souvent, bah c'est peut-être un peu redondant.
Un partenariat établi. Ouais, entre...
Même pas établi, mais en tout cas, dans les faits, c'est vrai qu'on n'est pas loin du partenariat. Si tu as envie de dire deux, trois petits mots peut-être sur les rues de Lyon?
Ouais, bien sûr. Bah, les rues de Lyon, c'est une association qui existe depuis longtemps, mais qui publie depuis 2015 un mensuel qui s'appelle Les Rues de Lyon. Le principe du mensuel, c'est de raconter un aspect de l'histoire de la ville en 10 pages de bande dessinée, et dans l'idée, chaque numéro est réalisé par un auteur ou une autrice différente. Mm. Et voilà, je fais partie de l'association depuis 4-5 ans, et c'est très très chouette, c'est très bien ce qu'ils font.
Et ce Rue de Lyon 111 est ton premier numéro?
C'est ça. Ouais, bah j'ai pas osé pendant très longtemps proposer de numéro, parce que je me sentais pas légitime, ou pour plein d'autres raisons. Et puis voilà, mais après celui-ci, ça fait quand même... Enfin, ça faisait un moment que j'y réfléchissais, et voilà, le numéro 111, c'était très bien pour sortir.
On va juste rappeler quand même que pour les auteurs des rues de Lyon, oui, ils touchent un tiers de la vente.
Oui, c'est vrai, j'ai rien détaillé.
Non, mais moi je le dis, je le rappelle, on trouve ça super bien à la causerie que justement les auteurs et autrices des rues de Lyon soient rémunérés à hauteur de un tiers de la vente, un tiers pour l'épicerie séquentielle et un tiers pour le distributeur, si
c'est ça.
Suivi, voilà. Ouais. Et c'est vachement bien parce que franchement, ça permet quand même d'asseoir pour les auteurs et les autrices mieux que dans la BD en général où on est plus proche des 10% que du tiers, quoi. Donc,
voilà. C'est 10% si on a de la chance. Hein.
Voilà, si on est connu, quoi.
Ouais, c'est clair. Donc,
Je pense qu'avec tous ces numéros autour des rues de Lyon et de la bande dessinée, je pense que ce serait un jour intéressant de parler justement de cette face un peu plus sombre de l'édition.
Ouais, parce
mais
que
pas vraiment... en mélangeant avec les rues de Lyon, mais c'est vrai que je pense que ça serait un sujet quand même, le peu de rémunération que les artistes peuvent toucher sur leur propre création quand même. On est quand même dans des trucs qui sont un peu hallucinants.
Ouais, mais ce soir on est venu pour parler d'autres choses, parce qu'on a parlé quand même de nouveau de la Révolution française à Lyon, mais sous un angle un peu particulier. Mais comme en fait on a besoin de respirer, surtout notre invité qui est stressé comme pire que si c'était le bac, et du coup on va pas se faire une petite coupure musicale, histoire qu'on respire tous ensemble sur, je crois, quelque chose qui devrait vous plaire. Voilà.
Le corps bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le corps bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire, danser comme un vicaire, les Casanova, nos Zeppa et moi. Moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi sous que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois faisans, on leur montrait nos culs et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des trois faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova, et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org, la causerie tous les dimanches à 22h. Et on a ce soir un invité, Nicolas Dalméda, qui est là pour le numéro 111 des rues de Lyon. Et on va en parler juste après. Mais tu as choisi Jacques Brel avec Les Bourgeois. Pourquoi ?
Pourquoi ? Eh ben, en fait, pourquoi Jacques Brel ? Pourquoi Les Bourgeois ? Parce que le numéro, il se passe à un moment particulier de la Révolution, où c'est plutôt vers la fin. Et c'est juste avant l'instauration de la Première République qu'on appelait la République bourgeoise.
Ben voilà.
Voilà.
Et donc, il faut croire que plus la République devient vieille, plus elle devient... Bon bref, c'est un ajout de ma part. Donc, alors justement, on va revenir au numéro en lui-même. Donc on avait reçu il y a trois semaines, un mois à peu près.
Oui, c'est ça.
On avait reçu Bastien qui était venu nous parler en fait de la Révolution française à Lyon au sens large. Et toi, tu reviens avec un épisode un peu particulier qui s'appelle le massacre des Madvons. Et alors déjà, on va commencer par décrypter le titre.
Oui, c'est vrai qu'il.
Bah ouais, parce que oui. Massacre, on voit à peu près, mais Madvons.
Eh bah oui. Mais c'était tout l'intérêt. Et en fait, Madvons, qu'est-ce que c'est? Madvons, c'était le nom donné par les Lyonnais. Donc c'est vraiment un terme lyonnais. Donné par les Lyonnais aux Jacobins. Donc les Jacobins, c'était une faction politique qui représentait plutôt la gauche. Et Madvon, ça veut dire, ça vient du verbe matver, qui veut dire couper la tête d'un arbre. Donc c'était tout un programme. Et donc c'était un terme qui était
péjoratif.
Ouais. C'est plutôt péjoratif.
Et il apparaît ce terme à la sortie de ce qu'on a appelé la terreur finalement.
C'est ça.
C'est-à-dire au moment où il y a eu beaucoup de personnes décapitées, d'où le couper la tête d'un arbre.
Oui, voilà, c'est ça.
Ça tombait plutôt bien.
Surtout que pendant la terreur, c'était les Jacobins qui étaient au pouvoir, donc c'était eux qui étaient aux responsabilités, et c'était eux qui coupaient les têtes.
Voilà. Donc c'est devenu des Madvons.
C'est ça. Et puis à Lyon, pas mal de têtes ont roulé.
Ouais.
Donc le surnom était quand même plutôt justifié.
Parce qu'on va rappeler que dans le numéro précédent, on avait déjà abordé un petit peu la période de la terreur, en disant qu'à Lyon, il y avait eu quand même plus de 1000 morts, je crois.
Plus
1865 sont avancés sur
ce numéro.
C'est ça, bah ça c'était seulement pour les condamnations, pour la répression. Bah, ouais. En fait, ouais, Lyon, ça a vraiment une histoire particulière dans la Révolution, parce que, en gros, là, les 1800 condamnations, elles ont lieu après une période de révolte de la part de la ville.
Oui, c'est vrai. Ouais.
C'est ça, il y a Lyon qui est assiégé par Paris, ça fait déjà quand même pas mal de morts, ça détruit quand même... Il faut imaginer que la ville est quasiment détruite. Genre, vraiment, il n'y a plus beaucoup de bâtiments qui tiennent debout. Et suite à ça, pour punir les Lyonnais, Paris condamne les contre-révolutionnaires. Et donc 1800 exécutions à mort. La moitié guillotinée, place des terreaux, l'autre moitié à la mitraille sur les Brotteaux, parce que ça va plus vite. Ouais, c'est particulier.
Et on est donc à la sortie de cet épisode-là. au moment où tout le monde commence à se dire ce serait peut-être bien qu'on arrête de s'entretuer entre nous, parce que rappelons quand même que c'est quand même deux factions révolutionnaires qui se tirent la bourre, hein, entre Girondins et Jacobins, et en fait chacun essaye de prendre le pouvoir l'une sur l'autre, donc on a plus finalement des révolutionnaires entre eux qui finissent par se mettre sur la gueule. Je sais pas si j'ai bon.
Oh, mais si, c'est ça.
Voilà, qu'une intervention extérieure quand même. C'est juste pour qu'on se rappelle de ça. Parce que souvent à l'école, on nous dit c'est les royalistes qui. Mais toi, dans ton numéro, bizarrement, j'ai l'impression que les royalistes, c'était un peu sur le côté plus que dans ce qui s'est passé.
En fait, je le savais pas du tout. Moi, quand j'ai commencé le numéro, le titre de travail du numéro, c'était La Terreur Blanche. Et c'était le terme sur lequel j'avais travaillé, en fait, où j'avais découvert le sujet comme ça. Et la toute première version que moi j'avais, c'était des royalistes qui sortaient dans la rue à ce moment-là pour se venger, etc., pour zigouiller tout ce qui ressemblait à un jacobin. Sauf que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. C'est Paul Choplin, un historien, qui m'a recadré un petit peu là-dessus. En fait, c'est ça qui est vraiment particulier. Il faut vraiment comprendre que la Révolution, c'est un contexte de guerre civile, en plus d'être un contexte de guerre contre l'Europe coalisée, qui, elle, est royaliste. Et c'est ça, en fait, vraiment, la contre-révolution, elle vient plutôt de l'extérieur, et tous les conflits intestins, c'est une guerre civile entre différentes factions, comme tu as dit, qui sont tous révolutionnaires ou plus ou moins républicains, et qui cherchent à prendre l'ascendance sur les autres factions. Donc voilà, au début c'était La Terreur Blanche, c'était pas vraiment la vraie version. C'est une version qui a été écrite par les Girondins, justement, pour justifier le fait que les Lyonnais s'entretuaient, qu'ils n'arrivaient pas à gérer le truc. Ils ont dit non, mais en fait, il y a des conspirations royalistes, on n'arrive pas à les contrer comme on voudrait, etc. C'était pour mettre un petit peu la poussière sous le tapis.
Ouais, ça permettait un peu d'effacer, on va dire, tous les excès.
Oui, voilà, c'est ça.
De la Révolution, c'est un peu ça l'idée, quoi. On va appeler ça pudiquement des excès.
Oui, voilà.
Parce que c'était quand même très sanglant comme excès.
C'était quand même très très sanglant.
Mais du coup, alors moi, ce que j'ai découvert dans le numéro, mais vraiment, parce que c'est pas une période que je connais forcément, pas que je la connais pas bien, mais c'est que comme on disait déjà la dernière fois, c'est la Révolution française. Plus on creuse, plus on découvre des trucs, et plus on se dit mais quand même, il y avait ça aussi. Ça. C'est donc en fait là, on est dans un moment particulier. On a Lyon qui, en gros, fait un peu la paix avec Paris. On va dire ça comme ça. On a pas mal de gens qui sont enfermés, et y a une envie de vengeance qui se lève. C'est ça, je résume ça à peu près bien.
Oui, c'est vrai, parce que peut-être depuis tout à l'heure, je suis un peu brouillon.
C'est juste que mon job, c'est de te faire parler, donc je le fais.
Mais je me dis, pour les personnes pour qui la Révolution, c'est quand même... En fait, pour tout le monde, j'ai l'impression que la Révolution, c'est une période qui est hyper nébuleuse et hyper compliquée. On n'ose pas s'y attaquer, ou on ne sait pas trop quoi en penser. C'était quoi la question ?
Alors en fait, c'était justement là, on est au moment où Lyon fait un peu la paix avec Paris.
Oui, oui.
Beaucoup de Jacobins sont enfermés.
C'est ça.
Voilà, sont emprisonnés. Mais il y a une vague de volonté de vengeance, qui se met en place.
C'est ça, exactement. Et c'est pas orchestré. En fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est pas orchestré par tel ou tel chef politique ou tel ou tel groupe politique. C'est ce qui fait tout le paradoxe de cette période-là aussi, c'est que c'est vraiment un mouvement de foule, un mouvement de masse, où en fait les Jacobins sont dans une période de faiblesse, parce que en 1793, Robespierre est guillotiné, et c'est lui qu'on rend responsable de la terreur, alors que de fait il n'est pas le seul responsable de ce truc-là, mais il sert de fusible.
Ouais, c'est un peu la bonne porte de sortie, quoi.
Voilà, c'est ça, c'était vraiment le coupable idéal. On le guillotine, on dit maintenant tous les massacres c'est terminé, la période de violence c'était lui le responsable et ses amis, maintenant qu'ils sont tous morts, c'est terminé, on va pouvoir mettre fin à la Révolution. Ils le disent pas comme ça, mais c'est un petit peu dans toutes les têtes, hein, mettre fin à la Révolution pour pouvoir souffler, pour pouvoir mettre un nouveau régime, parce que depuis la mort du roi il n'y a pas de régime stable. Donc il y a vraiment cette volonté là, d'apaisement de la part des autorités. Sauf qu'il s'est passé tellement de trucs. À Lyon, il s'est passé tellement de trucs. Il y a plein de gens qui sont morts des suites de la répression. En plus de ça, il y a eu des spoliations. C'est-à-dire que les Jacobins qui étaient aux responsabilités au niveau local Ils ont aussi profité du contexte pour certains pour régler leurs comptes, pour récupérer des biens, récupérer des apparts, etc.
Il y avait des dénonciations en fait. On dénonçait et les gens étaient guillotinés dans la foulée.
On les dénonçait au comité de surveillance révolutionnaire, ça s'appelait comme ça. Ils étaient jugés par un tribunal d'exception. Et il y avait que deux. Il n'y avait que deux condamnations possibles, il n'y avait que deux sorties possibles de ce tribunal, c'était soit l'exécution à mort, soit l'exil, il me semble.
Ah oui, donc on savait où on allait, quoi.
Oui, voilà, ou l'acquittement, mais enfin bref.
L'acquittement était rare, on va dire ça comme ça.
L'acquittement était rare.
Bah, c'est le problème des tribunaux d'exception, c'est que souvent, ils acquittent pas.
Ouais, c'est ça. Et puis en plus, on est vraiment dans un contexte où on a du mal à s'en rendre compte. En fait, on parle, même déjà de nos jours, on parle beaucoup de théories du complot, de fake news, etc. À l'époque, c'était exacerbé parce que tout le monde était persuadé que tout le monde faisait partie d'un complot qui était pour prendre le pouvoir, qui était soit royaliste, soit pro Robespierre, soit etc. etc. Enfin, vraiment, les tensions étaient à vif tout le temps.
Ce qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui encore dans les organisations diverses et variées, où il y a toujours des gens qui disent ah oui mais lui il fait ça pour prendre le pouvoir,
ouais, c'est
ça. Voilà, et même si des fois c'est pas fondé, donc on voit à la petite échelle que c'est aujourd'hui, donc on imagine bien effectivement en période révolutionnaire où tout le monde est à peu près armé et et où en plus c'est l'occasion comme tu disais de régler des comptes parce que l'occasion est un peu trop belle quand on a le pouvoir, souvent on se dit tiens si je l'utilisais mais pas toujours à bon escient.
Non, c'est ça, et puis même pas que des dirigeants politiques je veux dire en France la délation on sait ce que c'est, donc on s'entend pas avec son voisin, on dit oh, contre-révolutionnaire, royaliste, et puis voilà.
Je trouve que c'est aussi ça qui est intéressant à observer, c'est que ceux et celles qui aiment à se gargariser avec le peuple, mais en fait déjà le peuple n'existe pas vraiment, en fait il est scindé par plein de pensées, d'opinions, etc. et que il n'a pas besoin toujours de meneurs pour être des assoiffés de vengeance et de bassesse humaine, quoi.
Et
je trouve que ça aussi c'est intéressant de sortir un peu des trucs où soit le peuple le peuple déjà qui n'existe pas est dirigé ou est manipulé, etc. Et en fait non, je crois que pour se comporter comme une merde, désolé, mais l'humain il a pas besoin de grand chose en fait, quoi. Et je trouve que c'est là aussi c'est bien démontré que oui, c'est plus complexe que juste la prise de la Bastille et puis là c'est parti, quoi.
Ouais, c'est ça.
Non, c'est plus complexe, pardon.
Et comme il n'y a pas de questions, je vais en mettre une.
Ah ouais, non, vas-y.
C'était un commentaire, encore une fois.
Non, en fait, c'était juste moi ce que j'ai découvert.
Je suis fou sans
merde, je rentre dans la maison.
C'était un beau commentaire.
Oui,
c'était top.
Merci. Non, mais en fait, ce que j'ai découvert dans ce numéro des rues de Lyon et que vraiment je ne connaissais pas, pourtant je suis lyonnais. Hein. Ouais. Je suis né à Lyon,
Quoi ? Ça va, on va pas faire non plus d'identitarisme lyonnais.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai 47 ans et j'avais jamais entendu parler de ça comme ça.
Ah ouais.
Et c'est ça que j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est-à-dire que moi, j'avais le massacre des Madevons, j'en avais une image en tête, mais celle qu'on m'avait mise, c'était en gros, il y avait un complot royaliste qui a soulevé une partie de la population, qui est allé finalement désinguer des Jacobins à droite à gauche. Et on m'avait jamais expliqué ce que toi tu mets dans ce numéro et qui est hyper intéressant, c'est qu'effectivement, ils sont pas tellement dirigés, c'est plutôt, j'ai perdu mon frère, mon père, tu vas payer parce que c'est un petit peu le retour de balancier.
Ah ouais, c'est vraiment vengeance pure. Quoi.
Et c'est de la vengeance pure et que surtout, ça va très loin parce qu'on va même jusqu'à dans les prisons, on prend d'assaut des monuments publics et on n'est pas juste dans la vengeance au coin de la rue.
Ah mais c'était même pas au coin de la rue. Avant que ce soit dans les prisons, il y avait des lynchages publics. Il suffisait qu'il y ait un Jacobin parfois qui traverse la rue, même avec une escorte de la garde nationale. S'il était reconnu, les gens pouvaient venir et le zigouiller comme ça, le terminer. Non, c'était vraiment particulier. Je me rappelle plus. Si, la vision par rapport aux royalistes qui orchestraient tout ça, parce qu'il y avait quand même des royalistes qui faisaient partie de ce truc-là, mais ils n'étaient pas aux manettes. Et en fait, cette vision-là, elle a été mise en avant au 19e siècle, au moment de la Restauration, justement, par les républicains, pour dire, regardez, en fait, la République est victime des royalistes.
Oui, c'est ça, les républicains sont tous des gentils et ils n'ont jamais eu de mauvais agissements.
C'était, pendant tout le 19e, en fait, la Révolution, ça a été. Il y a eu des enjeux mémoriels très forts et militants très forts. Et voilà, cette vision-là des royalistes meneurs de foule vient de là. Okay. Mais ce n'était pas le cas.
Ok. Et non, c'était juste pour observer aussi que tu n'avais pas posé de question, Fab. petit clash perso. Et toi, justement, de mémoire, tu n'as pas fait une fac d'histoire, etc. Donc là aussi, faire ce numéro-là, déjà, pourquoi ce sujet-là, en fait ? Parce que, je sais pas, enfin, voilà, donc déjà, pourquoi ce sujet-là ? Et combien de temps de boulot aussi ? Parce que, enfin, ouais. Je pense pas que tu t'es lancé en 15 jours en disant, allez, je vais faire un numéro, j'y vais, je croque, et c'est bon, quoi.
C'est possible.
C'est ça, easy, quoi.
Voilà mes 10 planches.
Non, non, alors... talent.
Bah, pourquoi ce sujet-là ? En fait, moi, au début... je voulais parler de l'extrême droite parce que je trouvais que c'était un sujet qui était particulièrement saillant à Lyon. Enfin, Lyon a une histoire vraiment particulière avec l'extrême droite et toujours en ce moment, quoi. Ouais. Et mais bon, c'était un angle d'attaque très très frontal, très politique. Je savais pas trop comment l'aborder. Et ça, je trouvais que c'était au début. Ah bah avec, j'avais la version en tête de ce que tu disais, des royalistes qui venaient tuer les gauchistes dans la rue, un peu sous la même forme de ratonnade qu'on connaît maintenant. Et j'avais ça en tête et je me disais c'était un bon moyen de parler d'histoire, de parler de ce que je veux en passant par l'histoire. Bon, il se trouve que l'histoire était plus complexe que ça, finalement je parle pas de l'extrême droite. mais c'était ça le point de départ. Et après, ouais, non, j'ai pas fait de fac d'histoire, mais j'ai fait une fac d'anglais, LLCER anglais, si vous voulez avoir toute la nomenclature. Mais il y a quand même une partie histoire. En fait, en fac d'anglais, on étudie à la fois la langue, mais aussi la littérature et l'histoire. Histoire politique, histoire des idées, un petit peu, ça dépend après dans quoi on s'oriente en master. Et moi, je m'étais orienté en histoire contemporaine américaine. Donc, je connaissais pas très bien l'histoire de France, mais je veux dire, le travail de recherche, c'est quelque chose avec lequel j'étais quand même plutôt familier, puisque j'ai poussé jusqu'au M2, quoi, enfin, j'ai mon master. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, en fait. Mais, quand il y a un sujet qui m'intéresse, j'aime beaucoup me renseigner, aller voir ce que les chercheurs en disent, où est-ce qu'on en est là-dessus. Donc, c'est pour ça, en fait, le travail, il a été très long. Parce que je me suis renseigné peut-être pendant un an, quelque chose comme ça, un an ou deux.
Ok.
Enfin, ça faisait 2 ans que je savais que je voulais faire ce sujet-là, et puis je le creusais petit à petit, etc. Et donc j'ai rencontré Paul Choplin, qui est professeur d'histoire à Lyon 3.
Ouais, qui avait aussi aidé sur le numéro de Bastien.
Tout
ouais.
à fait.
Ouais.
Il avait aidé aussi Rebecca Morse, qui avait fait le deuxième numéro des rues de Lyon.
Okay.
Donc il est connu des services de
l'Université. Une personne ressource.
Il est dans nos petites notes. Et ouais, donc professeur d'histoire à Lyon 3, spécialisé dans la Révolution et dans la Révolution à Lyon. Donc c'était vraiment le personnage parfait.
C'est celui qu'il fallait voir.
Celui qu'il fallait voir. Et en plus, ce qui ne gâche rien, il est fan de BD. Donc franchement, c'est merveilleux. Je lui ai envoyé un mail, il m'a dit oui, pas de souci. J'avais un rendez-vous dans la journée. Et puis 3 heures, quoi. Pendant 3 heures, il m'a parlé de la Révolution. C'était formidable. Il m'a donné des livres à lire, etc. Donc ouais, en fait, c'est beaucoup, beaucoup de travail de recherche en amont. Et le plus dur après, ça a été de compiler tout ça pour en faire que 10 pages, parce que 10 pages, on s'en rend pas compte, mais c'est hyper court, ouais. Surtout pour traiter d'une période aussi dense que celle-ci, quoi.
Oui, c'est ça, et aussi, ouais. Oui, c'est ça, dense, complexe, loin du simplisme
qu'on
a pu nous inculquer, quoi. Est-ce qu'on se fait une petite pause musicale ?
Okay. Bon, d'accord.
Non, tu avais une question à poser ?
Non, mais je la poserai après.
Bah, c'est
parce que je suis quelqu'un de très discipliné, donc j'attendrai la fois d'après.
Ok, bah, très bien. J'aime quand tu respectes mon autorité. Allez, on y va. We'll be right back.
All of which are American dreams. All of which are American dreams. All of which are American dreams.
Ok, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et c'est toujours la causerie, toujours en compagnie. Oui, il y a encore beaucoup de toujours. Toujours en compagnie de Nicolas Dalméda pour parler du numéro 111 des rues de Lyon. Et la playlist, comme à chaque fois qu'on a des invités, c'est vous qui choisissez, c'est toi qui as choisi les titres. Et donc là, c'était Rage Against the Machine,
ouais,
avec le titre...
Know Your Enemy.
Yeah.
Yeah.
Et pourquoi ce titre? Enfin, si t'as envie de dire deux mots ou pas.
Parce que c'était une chanson populaire de l'époque.
De l'époque.
La Révolution française. Ah, oui. Tout le monde écoutait du Rage Against the Machine. Donc,
non, c'est fou. Hein.
C'est connaître ton ennemi. En gros, enfin, c'est bien de savoir aussi pour contre quoi tu te bats, oui, autant que pourquoi tu te bats, etc. Et c'était un petit peu l'esprit dans lequel j'avais commencé le projet. Donc, je me disais ça pouvait coller.
Eh ben nickel. Très bien. T'avais une question peut-être?
Oui, mais du coup, moi j'allais commencer à parler technique, donc ça tombe bien qu'on arrive là. Parce qu'on rappelle que les rues de Lyon, c'est de la BD,
ouais,
que c'est donc 10 pages de BD, donc comme tu disais, pas simple de résumer un aussi gros morceau en 10 pages, mais voilà. Et moi, il y a quelque chose qui m'a un peu surpris, mais dans le bon sens du terme, c'est les couleurs que t'as choisies.
Okay.
C'est-à-dire que, enfin moi, je vais commencer par ça, ça va être ma porte d'entrée, hein. C'est que, en fait, une coloration qui est très lyonnaise, paradoxalement, parce que les rouges et bleus, hein, sont quand même les couleurs de la ville. Et non, mais c'est vrai, je n'ai pas travaillé le truc. Non, mais surtout, moi, ce qui m'a interpellé, c'est que c'est un peu sépia. Ça fait un peu carte postale du passé. C'était volontaire, en fait, ou c'était... Parce que tu aurais pu le faire très jaillissant, avec des couleurs très rouges, voilà. Là, c'est très, très doux.
Ah ouais, mais c'est vrai, hein. En fait, la couleur, c'est le truc avec lequel j'ai le plus de mal. Mais
je suis rentré par le pire truc. Bon, okay.
Non, c'est pas le pire truc, parce que c'est grave intéressant. En fait, la couleur, j'avais réfléchi en je voulais faire plus de la couleur symbolique que de la vraie couleur, entre guillemets. Et dans ma tête, j'ai vraiment pensé comme un outil narratif, parce que déjà que le sujet est pas simple, la période est compliquée, enfin il y a quand même pas mal de termes. La première page elle est assommante parce que c'est de la contextualisation en texte. Enfin, j'avais conscience en fait que la BD était dense pour 10 pages et que c'était pas simple, mais je me disais que la couleur pouvait permettre une meilleure compréhension. Du coup, il y a la faction des autorités qui sont plutôt pour la paix, etc., même si bon, ils font rien comme il faut, mais qui sont en bleu. Et les moments où ça va à peu près, les teintes sont bleu-violette. Et de l'autre côté, il y a comment on va appeler ça, les égorgeurs, on les appelait à l'époque, ceux qui réglaient leur compte, qui sont plutôt dans des teintes rouges, ocre-rouge, et puis ça vire vraiment au rouge quand c'est les massacres, quand c'est les scènes de violence. Et ça permettait et d'identifier les personnages et d'identifier les lieux. Et ouais, j'ai vraiment pensé comme ça. Puis après, bleu rouge, j'ai pas du tout pensé à Lyon.
Non, non, mais je sais. Ça, c'était pour la blague.
Ouais, ouais, mais
je précise.
Mais remarque, en fait, c'était très intelligent de ma part.
T'aurais pu dire, mais oui, j'y ai pas. Non, mais alors, c'est marrant parce que le rouge, c'est presque du sanguine, en fait.
Ouais.
Et ça colle bien avec le sang qui coule beaucoup.
Ouais, ouais, ouais. Bah, c'était. Ouais, ouais. Et après, des teintes. En fait, quand c'est. J'ai peur des teintes vraiment trop flashy. Et je me dis, si je mets tout. Tout plus sépia, tout plus pastel, ça passe mieux. Et les premiers, mais la couleur, ouais, j'ai vraiment galéré. Et les premières versions sont encore plus sépia que ça. Et les personnages se détachaient pas du fond. Donc j'ai retravaillé tout ça après, etc. Mais la couleur, c'est vraiment pas évident.
Et justement, toi qu'on est sur le volet technique, tu bosses comment? Parce que ça, je sais que c'est une question qu'on aime bien poser, parce qu'il y a plusieurs écoles.
En
il y a...
dessin ou
Ouais, ouais, sur le dessin, est-ce que tu, okay, est-ce que tu croques papier-crayon pour autant de pages, ou est-ce que c'est tablette numérique
Non, c'est papier-crayon. Pour le dessin, en fait, de toute façon, quoi que je passe par le papier, parce que je visualise mieux. Et genre là, je pense que j'ai 100 pages de recherche, de crayonné, de storyboard, etc. Et ouais, en fait... je suis plus à l'aise en découpage, en scénario qu'en dessin pur, et du coup j'ai besoin d'avoir un storyboard relativement précis avant de commencer le truc. En fait, je me prémâche beaucoup le travail pour avoir de bonnes bases, pour être plus à l'aise en dessin. Et là, du coup, les dessins, je les ai faits sur des feuilles A3 canson à la plume et à l'encre de Chine. Et après, je scanne et je retravaille sur ordinateur. Là, en fait, il y a beaucoup de détails qui ont changé entre les versions original, on va dire, et puis ce qui a été imprimé. Et après, la couleur, c'est entièrement numérique.
Et justement, enfin, pardon, mais je recoupe avec ce que tu disais avant, ta difficulté de légitimité, en tout cas celle que tu te donnais ou pas au sein de l'épicerie séquentielle, bah, est-ce que tu l'as gagnée, cette légitimité-là, avec ce numéro-là? Est-ce que tu as eu des retours avec les copains, copines de l'épicerie séquentielle? Est-ce que tu as eu des coups de main? Enfin, ça se passe comment? Est-ce que tu as un peu des allers-retours?
Ouais. Ah bah, des coups de main, ouais, énormément. Franchement, ouais, énormément. Et ça, c'est trop précieux. Et en fait... la question de légitimité, je sais que c'est que moi qui me l'ai supposé, personne m'a jamais mis de pression, personne m'a jamais dit tu peux pas faire ça si tu sors pas d'Emile Cole typiquement. Parce que bon, il y a quand même un petit lobby Emile Cole.
T'es à Lyon, hein.
Ouais, c'est ça. Mais non, en vrai c'est phénoménal et on est suivi. En vrai, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'est pas tout seul quand on fait un numéro des rues de Lyon, on est vraiment suivi par l'ensemble des groupes tout le long. Après, c'est un numéro que j'ai beaucoup réfléchi avec Bastien aussi, parce que Bastien sortait son numéro le mois d'avant sur la Révolution en général. Ouais. Moi, sur celui-ci, en fait, on a bossé, on s'est rencontrés quand même plusieurs fois en amont, parce qu'on savait qu'on bossait sur des sujets connexes.
Oui.
Et c'était super appréciable, parce que, en fait, quand on bosse des sujets aussi spécifiques, et qu'on le bosse autant, souvent on se sent seul parce qu'en fait on a envie d'en discuter avec nos proches. On dit oh, tu te rends compte, le Jourdain, tu es gros, je sais pas de quoi tu parles. Donc là, c'est super d'avoir des collègues, ouais, qui travaillent sur les mêmes sujets, avec qui on peut parler, on peut rentrer plus dans les détails. Ça, il y a la maquettiste qui m'a beaucoup aidé aussi, il y a le groupe de relecture et de suivi éditorial, pareil, qui m'ont beaucoup aiguillé sur la manière de raconter mon histoire. Donc non, c'est super. Ouais.
Et alors, nous, on va le rappeler, hein, si tu passes à la causerie, c'est qu'on a aimé. Donc, on va pas faire comme si on n'aimait pas. Parce que voilà, en général, on reçoit que les gens qu'on aime bien. Donc voilà, pour le travail qu'on aime bien, en tout cas, parce qu'on se connaissait pas avant ce soir. Mais en tout cas, moi, je voulais dire, j'ai une question, mais alors, vraiment, c'est pourquoi tu as mis un chercher Charlie dans tes personnages? Parce que, en fait, il y a des visages qui ressemblent un petit peu à des gens d'aujourd'hui. Ah. C'était volontaire ou pas? On va pas les dévoiler, parce que l'idée, c'est que les gens, quand même, les découvrent. Mais quoi que tu peux les dévoiler si tu veux.
Ah, je peux les dévoiler, en fait, voilà. Parce que je pense que les gens les découvrent pas, parce qu'ils s'attendent pas à chercher ce genre de personnage dans un récit historique. Mais ouais, il y a un chercher Charlie de fou. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai
bien. Il n'y a pas Charlie.
Non,
on cherchait un gars avec un pull à rayures.
Cherchez pas Charlie, il n'y a pas de Charlie. Mais alors, en fait, moi, j'ai fait pas mal de dessins de presse, mais pour Zéro Média, genre comme ça sur mon Insta. Et donc je viens vraiment de là, et on l'a déjà dit, enfin, l'envie première que j'avais, c'était de parler de l'extrême droite, et en fait vraiment de parler du contexte politique actuel. Et si je me suis intéressé à cette période-là, c'est parce que je trouvais qu'il y avait des parallèles à faire et que ça me permettait de comprendre des trucs. Et donc, il y a deux personnages que j'ai calés dans cette histoire. Il y a Macron, bien, le seul et l'unique, bien sûr, qui je l'ai mis à la place de Boisset, qui était le responsable local à l'époque, qui s'est fait connaître parce qu'il voulait terroriser les terroristes, donc c'est-à-dire punir les Jacobins pour que, pour que les Lyonnais n'aient pas à le faire, quelque part. Sauf que les décisions qu'il a prises n'étaient pas forcément les bonnes. Par exemple, organiser une rafle pour emprisonner tous les Jacobins en se disant ils sont plus en sécurité dans les prisons que chez eux. L'idée, en vrai, vu le contexte, l'idée pouvait se comprendre, mais mauvais calcul.
Bah oui, ça les met un peu tous au même endroit quand même.
C'est ça, et en fait, il y a eu plein de lois comme ça. Il y a eu le fait que les Jacobins étaient assignés à résidence, le fait que ils étaient obligés, tout le monde était obligé de mettre leur nom aux portes, ça n'existait pas avant ça. Et donc, en fait, assigné à résidence, on savait où ils habitaient.
Avec le nom sur la porte.
Donc, c'était hyper facile.
Il y avait eu des listes aussi qui avaient été éditées. Donc
Pas par Macron, pour le coup.
Non, mais qui servaient aussi à ça, qui ont été détruites, mais quand même copiées en partie.
C'est ça. Les comités révolutionnaires avaient gardé dans leurs archives les listes de dénonciations. Qui ont très vite été brûlées, etc., parce qu'on avait très vite compris le potentiel destructeur de ces listes-là. Sauf que, pas de bol, elles ont fuité. Et potentiellement par les royalistes, pour le coup, parce qu'elles ont été imprimées à Lausanne.
Ah oui, donc il y a des chances.
Il y a des chances. et donc voilà, ces listes de dénonciation, elles étaient très bien faites. Il y avait une colonne des personnes qui avaient dénoncé, à côté les personnes qui avaient été dénoncées, et le tout était classé par quartier, etc.
Ouais, donc du coup, c'était très pratique. Prendre la liste de ceux qui avaient dénoncé et on allait se venger des noms qu'on trouvait.
C'est ça, et c'était placardé sur les murs, distribué sous le manteau, en mode « Ah, voilà, Maintenant, faites ce que vous voulez. Bah voilà, évidemment, il s'est passé ce qui devait se passer.
Tout en disant qu'il y avait peut-être des fausses listes aussi, du coup. Il y a peut-être des listes falsifiées avec des noms de nouveau de gens qui n'avaient pas forcément dénoncé à l'époque.
Ouais, peut-être.
C'est encore une des possibilités, quoi.
Oui,
on voit que la période était complexe, quoi.
Ah ouais. Mais tout tourne autour des listes parce que même après, quand ils ont fait les raids dans les prisons, ils ont récupéré les registres des prisons pour savoir qui avait potentiellement réchappé aux raids, etc., pour aller les débusquer derrière. Donc, je sais plus quel était le point.
Tu as calé Macron, mais il y en a un
deuxième personnage.
Donc, Macron, pour montrer qu'il était incompétent et qu'il a laissé dégénérer la situation et qu'il tapait beaucoup plus sur les jacobins que les contre-révolutionnaires qui étaient présents aussi également.
Ça me rappelle quelque chose.
Ouais, voilà. Ouais, mais ça résonnait. Hein, il y a vraiment... Et le deuxième personnage, c'est Valls. Parce que il me fallait quelqu'un qui ait l'air pas sympa.
Ouais, et un peu opportuniste.
Et un peu opportuniste.
Ça tombe plutôt pas mal. Ouais, c'est
ça. Je vais pas dévoiler le rôle qu'il a dans la BD parce que c'est un personnage qui plutôt central en fait. Mm-hmm. Même s'il arrive un peu tard. Enfin, tard, c'est 10 planches, hein, donc. Mais voilà. Mais voilà, il y a Valls. Sachez qu'il y a Macron et Valls.
Voilà, donc vous chercherez quand vous achèterez ce 111e numéro des Rues de Lyon.
Oui, et d'ailleurs, on n'a pas dit, mais les Rues de Lyon, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, vous allez sur le site de l'épicerie séquentielle, épiceriesequentielle.com, et vous pouvez le trouver dans plein de librairies, etc., sur Lyon, Villeurbanne et bien ailleurs encore.
C'est ça, il y a la liste de nos points de vente sur le site, il me semble.
Voilà. C'est tout à fait ça.
Mais moi, je voulais continuer sur l'aspect technique, si ça te, sauf si tu en
as. Ah ouais, non, avec plaisir.
En fait, moi, il y a quelque chose qui m'a plu et j'ai trouvé plutôt bien fait, c'est qu'il n'y a pas un seul visage qui se ressemble dans les foules, donc ça, c'est plutôt bien, parce que c'est assez rare. Souvent, quand on fait une foule, on a tendance à la un peu normaliser, tout le monde se ressemble un peu. Et il y a une volonté chez toi, à chaque fois, d'avoir envie d'individualiser. Même dans la foule, ou c'était juste parce que tu t'es dit, bon, allez, comme ça, ça fera vraiment un effet de foule diverse, énervée. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Parce que c'est quand même du boulot. Hein. Enfin,
Il y
a des scènes de foule assez. Enfin, parce qu'il y a des émeutes, il y a quand même des prisons, comme on disait, qui sont prises d'assaut. Il y a du monde.
Ouais, il y a du monde.
Et pourtant, moi, j'ai vérifié, personne ne se ressemble. Donc, t'as pris vraiment le temps de faire ça. Enfin, c'était...
Ouais. Bah, après, il y a aussi, j'ai casé mes potes. Donc.
Ah voilà pourquoi.
Il y a moyen de caser des potes. Mais puis en fait voilà, ça fait des personnages. J'ai pas besoin de trop me casser la tête pour trouver à quoi ils ressemblent. Mais après individualiser la foule, bon, il y a des fois où quand même j'ai fait des
simplifier
la vie. Mais c'est vrai qu'individualiser, bah en fait je sais pas, je mets bien. c'est vrai que ça passe du temps. Mais c'est vrai que en fait
ça rend ça très vivant. C'est-à-dire que d'un coup on a vraiment une foule diverse en face de nous, et pas une masse, quoi. C'est-à-dire, on a vraiment des gens qui approchent.
Ouais. Mais en fait, je me suis beaucoup basé sur. En fait, pour faire cette BD-là, j'ai beaucoup lu la BD Révolution, justement, de. À chaque fois, je mange leur nom. Locard et Graouzel, je crois, quelque chose comme ça.
Okay. On te fait confiance.
Voilà, c'est ça. En fait, ils ont eu le Fauve d'Or en 2019, il me semble, pour leur. Et ils veulent raconter l'histoire de la Révolution, mais en 3 tomes. Et c'est des pavés. Et il y en a 2 qui sont sortis. Et en fait, le 2, ils l'ont splitté en 2 tomes. Donc en fait, d'ailleurs, je ne sais pas combien de tomes. Mais c'est hyper impressionnant et c'est trop trop bien. Parce que pareil, ils racontent la Révolution, mais du point de vue des personnages.
Ouais.
Et ils font vraiment vivre la période, etc. Bah, après, je pense que c'est compliqué à lire si on n'a vraiment aucune notion de la période. Mais c'est hyper inspirant. Et eux, pareil, quand ils dessinent des foules, bah, souvent, chaque silhouette est détaillée et les personnages ne se ressemblent pas. Et je pense que j'ai voulu faire ça aussi. Pour ce numéro-là, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de scènes de foule.
Ouais, mais c'est un super rendu. Enfin, honnêtement, moi, je trouve que ça apporte quelque chose à palper la période. C'est-à-dire se rendre compte, que c'était un vrai soulèvement divers. Il y a des hommes et des femmes. Et ça permet de comprendre un peu encore mieux cette espèce de vague de vengeance dont tu parlais. Ouais. Et donc, la dessiner comme ça, du coup, on la capte, quoi, vraiment. C'est-à-dire, c'est une vague... C'est une grosse vague.
Surtout qu'ils avaient tous, je pense qu'ils avaient tous des raisons personnelles de participer
qui
n'étaient pas les mêmes, qui étaient similaires, mais qui n'étaient pas forcément identiques. Il y en avait, c'était peut-être plus des motifs politiques, mais surtout beaucoup de motifs personnels. Donc, c'est vrai, ça permet d'individualiser. Ouais, j'avais pas réfléchi à ça.
t'es pas venu pour rien ce soir. C'est cool.
Et pardon, une petite question avant vite.
Le mec qui me dit on va couper.
Ouais,
couper,
mais oui, c'est vrai. Non, mais c'est parce que je rebondis sur le fait que tu parlais, c'est inspirant, etc. Justement, est-ce que. Enfin, toi, t'as des auteurs, autrices de BD un peu que tu aimes, qui t'inspirent dans leurs traits, dans leur.
Ouais, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup.
Tu peux juste en citer un ou deux, ou ouais. Pas du tout même, hein, après, et dire...
Enfin, c'est hyper classique, hein, c'est hyper bateau ce que je vais vous dire, mais Gaston Lagaffe, voilà, pépite. Kelvin et Habs aussi. Larsenet, j'en ai beaucoup, beaucoup lu, parce que mes parents étaient fans du Retour à la Terre et Combat Ordinaire, etc. Donc ouais, ça m'a beaucoup influencé. Et c'est pas pour être faillot, mais Jérôme Jouvray aussi, c'est l'un des fondateurs de l'épicerie séquentielle qui a fait Lincoln et tout. Et en fait, je lisais ses BD gamin, quoi. Et je suis hyper fier de faire partie de son asso et d'avoir pu bosser avec lui. Donc, ouais, cool. Ça a été une grosse inspiration. Et je lui ai piqué des chevaux. Il y a un moment dans la BD, j'ai dû dessiner des chevaux, je savais pas comment faire. J'ai ouvert ses BD, je fais OK. Parfait, comme ça,
je fais gaffe,
je
vais te demander des droits d'auteur. Ouais. On passe à une petite coupure musicale et on se retrouve pour la petite dernière partie.
On m'a dit tes idées ne sont plus à la mode. Quand on veut gouverner, ce n'est pas si commode. Il faut évidemment s'adapter au terrain, mettre jour après jour un peu d'eau dans son vin. On m'a dit dans la jungle, il faut qu'on se débrouille. On est bien obligé d'avaler des magouilles, de laisser dans un coin les projets trop coûteux. On va pas tout rater pour des canards boiteux. La porte du bonheur est une porte étroite. On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81. On m'a dit qu'il fallait prêcher le sacrifice à ceux qui n'ont pas pu s'ouvrir un compte en Suisse, qu'il fallait balayer tous nos vieux préjugés et que ceux qui travaillent étaient privilégiés. On m'a dit tu comprends tes idées archaïques ne feront qu'aggraver la crise économique. Ainsi la liberté dans un monde plus juste fait partie des slogans qui sont un peu vétustes. La porte du bonheur est une porte étroite. On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81. Puis d'autres sont venus, beaucoup moins présentables, qui parlaient de la France en tapant sur la table, qui disaient faut changer, c'est la loi du pendule, on va pour commencer supprimer la pilule. Ensuite il faudra bien flitoxer la vermine, rétablir la morale avec la guillotine. Et puis il n'y a qu'à virer les mauvais syndicats pour conserver celui qui plaît au patronat. La porte du bonheur est une porte étroite. On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver, qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81. Ils ont dit qu'il fallait se montrer réaliste, qu'il y avait du bon dans les journaux racistes, qu'il fallait nettoyer ce cher et vieux pays si l'on ne voulait pas qu'il devienne un gourbi. Dois-je vous l'avouer, ces propos me renversent quand je vais boire un verre au café du commerce. Parfois je crois revoir sur du papier jauni la photo de Pétain dans mon verre de Vichy. La porte du bonheur est une porte étroite. Qu'on ne me dise plus que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81.
C'est toujours la causerie au son d'audio sur radiocanu.org. On vient d'entendre un titre de Jean Ferrat.
Oui.
Voilà, et que tu as fait dans la modernité ce soir. Et donc, c'était La Porte à Droite.
Ouais.
Alors, pourquoi ce titre ?
Eh bien, parce qu'il a écrit ce titre-là en 85, et en fait, c'est vraiment une chanson post-tournant de la rigueur 83. Mmh. Donc, Jean Ferrat, c'était quand même un communiste. Je suis pas sûr, je sais pas ce qu'il pensait de Mitterrand en 81, mais bon, au pire, il se disait, voilà, c'est le gauche, machin, peut-être qu'ils vont faire des trucs. Et c'est vraiment la chanson où il dit, non, c'est n'importe quoi, ils ont trahi tous les idéaux pour lesquels ils ont été élus. Et ouais, oubliez nos folies d'avant 81, c'est ça, quoi. Et pourquoi je l'ai pris ? Parce que, en fait, je cherchais des trucs qui parlent de fin de révolution. Et la gauche au pouvoir en 81, c'était quand même une forme de révolution citoyenne. Enfin, genre Mélenchon se réclame de ça, etc. Donc, et à l'époque, c'était vraiment un bouleversement que ma génération mesure assez peu parce qu'on n'a pas connu la gauche au pouvoir, quoi. Mais 83 était une grosse
décision. Ah si, vous avez quand même connu François Hollande.
Ah ouais, c'est... Ah, pardon.
On se souvient plus qu'il est de gauche, mais...
Quand il a été élu, oh là là, c'est vrai que...
Au départ, ouais,
ah ouais,
quand même.
Moi, je me suis peut-être couché à 22h.
Bon, moi je suis né sous Giscard. Bref, donc du coup, parce qu'on va rappeler que tu es venu présenter quand même un numéro des rues de Lyon sur le massacre des Madevons à Lyon, et que donc c'est un mouvement, comme on l'a dit depuis le début, de vengeance suite à une répression très forte des Jacobins, et c'est un mouvement de vengeance contre les Jacobins. Après, c'est très... Voilà.
Tout à fait.
Et que donc, du coup, ça collait quand même pas mal avec le fait qu'une révolution, c'est pas toujours très clean.
La fin, c'est toujours un gros sujet.
Voilà. Ouais. Et quand est-ce que ça s'arrête ? Parce qu'on sait quand c'est que ça commence.
Ouais, et de quelle manière ça s'arrête ? Voilà. Et puis surtout qu'en 95, les gens sont lessivés. Et puis en fait, il y en a beaucoup qui sont déçus. Parce qu'il y a une première...
En 1795.
En 1795, oui, c'est vrai qu'il faut resituer. Après, en 1995 aussi, probablement. Oui. Mais en 1795, les gens, à la fin de la révolution, ils sont épuisés. Ils sont déçus parce que quand c'était les Jacobins qui étaient au pouvoir au tout début en 1793, ils ont fait une première constitution très sociale, etc., qui n'a jamais été appliquée. Et celle qui est rédigée justement en 1795, c'est par la droite. Ils enlèvent la déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour la remplacer par la déclaration des droits et des devoirs.
Ouais.
Voilà,
et ça n'est pas rien.
Et ce n'est pas rien. Et ça, pareil, ça fait écho à pas mal de trucs.
Ben en tout cas, merci d'être venu présenter ce numéro. On va faire maintenant un peu de retap.
Mais oui.
Parce que c'est le moment où on en fait. Alors du coup...
Bah déjà, si les auditeurs, auditrices ont envie de suivre ton travail plus personnel... Ah, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, on n'a quasiment pas parlé de ce que tu aimais. T'aimes bien croquer, toi, sur quelques cases, etc. etc. Les gens peuvent te suivre.
Ils peuvent me suivre sur Insta.
Ouais.
@SodaArtist.
Yes, on mettra évidemment le lien sur le blog de l'émission.
Pourquoi Soda ?
Oh, aucune idée.
Okay.
Si, parce que mon meilleur pote s'appelait Sandwich Artiste. Moi, je dis, voilà, ce sera Soda.
Ah, même Sandwich et Soda, ça va ensemble.
Voilà. Ça fait un menu.
C'est la jeunesse du truc.
Et évidemment, si vous voulez suivre aussi l'épicerie séquentielle qui gère, on va dire, les rues de Lyon, qui édite les rues de Lyon, c'est épiceriesequentielles.com. Et vous pouvez, pareil, en retrouver aussi l'épicerie séquentielle sur plein de réseaux, Facebook, Insta, etc. etc.
Ouais, ils sont un peu partout.
Ouais. Donc voilà, est-ce que toi tu avais un mot ou tu voulais, je sais pas, passer le bonjour à quelqu'un, à papy, mamie ou genre
s'ils sont pas couchés, s'ils m'écoutent, avec plaisir, des gros bisous.
Bon bah très bien.
Mais non, sinon merci beaucoup pour l'émission.
Avec plaisir.
Et tu as des, tu as des envies pour plus tard.
Oui,
pour
plus
projets,
tard. Ah bah il y en a beaucoup. Après,
sans forcément les dévoiler, hein, c'était juste, est-ce que tu restes dans la BD, est-ce que tu vas créé encore dans la BD.
Dans la BD, y a un autre numéro des rues de Lyon aussi sur lequel je travaille, qui parle aussi de la même période, mais pareil, qui parle d'une anecdote, et je pense qu'il sera plus rigolo. Même si, bon, il y a quand même des gens qui finissent décapités, mais il sera plus marrant.
C'était assez classique à l'époque.
Ouais, malheureusement, ouais. C'était à la mode.
Ouais.
Et sinon, un autre projet, on travaille sur... On a créé un concert dessiné qui s'appelle Errance, avec un ami qui s'appelle Guillaume Prevel qui est au clavier et Max Rousseau qui est à la lumière. Et donc le principe est très simple, on est deux sur scène, le musicien et moi, ce que je dessine est vidéo projeté, et on raconte une histoire en une heure avec que du dessin et de la musique, et normalement on devrait peut-être pouvoir jouer à Lyon en juin, mais pour l'instant c'est pas sûr.
Okay.
Mais peut-être.
Eh bien, si c'est sûr, n'hésite pas à nous faire passer l'info. On donnera rendez-vous aux auditeurs, auditrices et peut-être à nous-mêmes aussi.
même si ce n'est pas en juin que c'est en août.
Oui, évidemment.
Ça reste nous l'info, il n'y a pas de souci.
Voilà. Eh bien, très bien. Eh bien, c'est là, c'est au tour de la causerie de faire un peu de retape. Allez, vas-y.
Donc, si tu as envie de nous écrire et que tu as trouvé cette émission géniale et que tu veux laisser un petit mot, eh bien, ça se passe en général sur le blog. Il y a blogs avec un s.radiocanu.org/lacauserie. Ou tu tapes la causerie canu, tu devrais trouver le blog assez facilement. Tu peux aussi nous écrire à lacauseriecanu@gmail.com. Si tu as envie de soit commenter, ou soit si tu es un créateur, une créatrice, une association, quelqu'un qui a envie de témoigner, des choses comme ça, n'hésite pas, écris-nous et on verra si ça colle, il n'y a pas de souci. On se verra un dimanche soir à 22h. Et sinon, tu peux nous retrouver sur Facebook. Mais là, on fait ce que réseau social commercial sert, c'est-à-dire on fait de la com. Mais donc, ne nous écris pas par Facebook. En plus, ça appartient à Mark Zuckerberg, alors que le site de Radio Canu appartient à Radio Canu. Donc, écris plutôt à Radio Canu. Voilà. Et sinon, on est sur tous les podcasts. Tu tapes la causerie Canu et tu nous trouves. Et la semaine prochaine, on n'aura pas d'invité, ce qui est assez rare depuis un certain temps. Ça fait 3 semaines qu'on a des invités. La semaine prochaine, tu retrouveras nos douces voix, rien qu'à nous.
Oui, si t'as envie ou pas. Et toi, t'as envie de dire quelque chose
pour introduire le dernier morceau qui va passer.
Ouais, ça fait partie de la sélection. T'inquiète, ouais, tu vas l'introduire.
Oui, j'assume pas du tout. Je rigole.
Et je crois qu'on a tout dit effectivement. Donc, on donne rendez-vous aux auditeurs auditrices, dans les librairies ou autres, dans le numéro 111 des rues de Lyon, sur le massacre des Matevons.
Ouais, c'est juste, j'ai juste un truc à dire avant qu'on parle du morceau. Juste, je vous invite, parce qu'on le fait rarement à la causerie, mais là je le fais vite fait, allez voir Une famille de Christine Angot.
Oui.
Voilà.
C'est vrai.
Vraiment, allez-y.
Oui.
Parce que c'est un film qui est très peu distribué, mais qui est très important, et il faut le faire vivre.
Et voilà. Oui. Et les violences sexuelles et incestueuses, on en a déjà eu parlé dans la causerie. Donc, oui, ça fait partie des œuvres qui peuvent contribuer à pas mal de choses. Voilà. Et c'est. Donc, Nicolas, tu vas nous causer du dernier titre que tu as choisi. Ah oui, c'est vrai.
Ouais,
il faut vraiment qu'on se déresponsabilise. C'est pas vrai.
J'assume pleinement.
Et c'est donc
la responsabilité de ce choix.
C'est le titre beau. Rouge de
Frederick Goldman Jones.
Ouais.
Donc voilà. Et pourquoi ce titre-là? Parce que ils l'ont écrit. Enfin, Jean-Jacques Goldman l'a écrit juste après la chute de l'URSS. Et Goldman, il est issu d'une famille de militants communistes, immigrés polonais. Et c'était le moins gauchiste de sa famille de turbo-gauchistes. Et donc il était quand même sensible à tout ça, il avait quand même la fibre militante quand même. Enfin, c'est quelque chose qu'il respectait, quand bien même l'URSS a fait des trucs horribles. Il avait conscience que c'était la patrie des prolétaires, que c'était une révolution qui s'était mal passée, mais que c'était quelque chose d'important. Et quand même, auteur hyper populaire, le plus grand auteur de chansons français à ce moment-là, qui décide de parler de la fin de l'URSS, mais sans dire « ouais, le communisme, c'est 100 000 morts » ou je sais pas quoi, qui vraiment fait un espèce d'éloge de la révolution rouge. Moi, c'est un morceau qui me touche, et je trouve que ça parle bien des fins de révolution qui sont douces, amères, enfin, voire vraiment décevantes.
Moi, je suis d'accord avec toi, et je vais te dire pourquoi, c'est que je pense que c'est un morceau qui a aidé plein de militants et de militantes qui ont pu découvrir à ce moment-là ce qui s'est passé de l'autre côté du
monde,
et qui sont peut-être tombés de leurs illusions, mais qui finalement, ce morceau leur a un peu réchauffé le cœur en disant,
surtout que...
on savait pourquoi on se battait, même si d'autres l'ont détourné et en ont fait une belle saloperie.
Ouais, c'est ça, et puis en plus il est vraiment allé chercher les cœurs de l'armée rouge, il est enregistré à Moscou, donc je trouve que c'est une belle démarche.
Eh bien, très bien. Donc, on se quitte en musique, évidemment. Merci encore à toi, Nicolas Dalméda, auteur du numéro 111 des rues de Lyon.
Et Frédéric Goldman Jones, rouge.
Avec le titre rouge, effectivement. Pour se quitter, nous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain, 22h, 23h, sur l'antenne de Canu. Portez-vous bien d'ici là. Et à bientôt. Des bisous.
Des bisous.
Ciao.
Salut.
jardin, de l'amour et du pain. Les chansons du vin manquera de rien. Il y aura du soleil sur nos fronts et du bonheur. Après le noir, on aura nos dimanches. On ira voir la mer et nos frères de silence et la paix sur la terre. Mais si la guerre éclate sous nos
on se donne.